VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 17h à Ouagadougou, 18h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Le mouvement indépendantiste de l'enclave angolaise de Cabinda affirme aujourd'hui avoir tué 17 soldats angolais au cours d'affrontements ce week-end dans cette région minée par des revendications séparatistes depuis plus de 40 ans. 4 officiers et 7 soldats des forces armées angolaises ont été tués lors d'affrontements samedi et dimanche avec des éléments du FLEC, le Front de Libération du Cabinda, près de la frontière du Congo-Brazzaville, indique un communiqué des séparatistes. 6 soldats de plus sont morts dans une embuscade dans une autre partie de la région de Cabinda, ajoute le texte. Une source des forces militaires angolaises a confirmé à l'AFP que des soldats avaient été tués ce week-end à Cabinda, mais sans indiquer leur nombre. Les patrouilles aériennes de l'armée angolaise dans la région ont été renforcées, indique cette même source. 2 membres du FLEC ont également été tués dans ces affrontements, selon le communiqué des indépendantistes. L'enclave de Cabinda, entre la RDC et le Congo-Brazzaville, très riche en pétrole et coincée entre les deux Congo, est minée par des revendications séparatistes depuis son intégration par l'Angola au moment de l'indépendance en 1975. Burundi, 126 membres du contingent burundais de 280 policiers en Centrafrique sont rentrés ce lundi à Bujumbura. Les autres arrivent dans la soirée. Les intéressés faisaient partie de la MINUSCA, la mission de l'ONU en RCA. Après leur départ de ce pays, il n'y aura plus de policiers burundais au sein de la MINUSCA, comme l'a décidé le bureau approprié de l'ONU. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
À bord d'un avion de Ethiopian Airlines, 126 policiers burundais de la mission des Nations Unies en République centrafricaine sont arrivés ce lundi à 10h GMT à l'aéroport international de Bujumbura. Le reste du contingent burundais arrive ce lundi soir. À la question de savoir si ces policiers ont été renvoyés pour atteinte sérieuse, le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, a indiqué que ce sont les organisations de la société civile qui pensent que ces policiers ont été chassés de la MINUSCA. Pour Pierre Ngurikiye, ces organisations ont voulu semer la division au sein des corps de défense et de sécurité du Burundi depuis avril de l'année dernière. Et ce n'est pas demain qu'ils vont réussir à saper cette union, car les corps de l'armée et de la police sont tous unis comme les doigts d'une même main, selon toujours le porte-parole de la police qui était à l'aéroport les accueillir. En juin dernier, le secrétariat des Nations Unies avait déjà informé la mission permanente du Burundi auprès des Nations Unies à New York du rapatriement des unités de police constituées burundaises le jour de leur rotation le 31 juillet dernier, et de ne pas les remplacer. L'ONU étudie également le cas des 840 soldats de la MINUSCA. Notons également que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi dernier pour l'envoi de 228 policiers onusiens en vue de suivre la situation sécuritaire au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, Moïse Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle congolaise, a demandé aux autorités de la RDC de cesser de monter des dossiers judiciaires contre les adversaires politiques du président Joseph Kabila. Pour sa part, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a exigé hier la tenue de la présidentielle d'ici à la fin de l'année et le départ du président Kabila le 20 décembre. C'était lors de son premier grand meeting à Kinshasa depuis son retour au pays. Éric Manirakiza.
Le 19 septembre 2016 est la première ligne rouge à ne pas franchir. Le corps électoral doit être convoqué pour l'élection présidentielle, a déclaré le président de l'UDPS. Monsieur Tshisekedi a également exigé la cessation des procédures arbitraires, judiciaires ou autres contre des leaders de l'opposition, comme c'est le cas avec Moïse Katumbi et Martin Fayulu. L'opposant âgé de 83 ans a de nouveau récusé Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue. Il a accusé de prendre parti pour M. Kabila et M. Kodjo avait déjà qualifié cette accusation d'injuste. Le président Joseph Kabila avait convoqué un dialogue pour permettre des élections apaisées. Plusieurs opposants avaient d'abord boudé ce forum, qualifié de piège, puis ont changé d'avis en posant des conditions comme la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Hier, la CENI a lancé l'enregistrement des électeurs dans la province du Nord Ubangi, près de la Centrafrique. Ces opérations vont se poursuivre dans tout le pays et peuvent durer plusieurs mois.
Au Tchad, l'opposition a prévu 3 jours de mobilisation contre l'investiture le 8 août du président Idriss Déby Itno, dont elle conteste la réélection pour un 5e mandat. Les opposants regroupés la semaine dernière dans un front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAC, compte organiser une opération ville morte sur l'ensemble du territoire national le jour de l'investiture du président Déby. Également prévu la veille, dimanche 7 août, une marche pacifique à N'Djamena et dans les chefs-lieux de région.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, assassinat d'un officier de l'armée hier soir à Tombouctou, dans le nord du pays. Plus de détails avec Abdoulaye Traoré, directeur de Radio Bouctou, station partenaire de La Voix de l'Amérique à Tombouctou.
Hier soir, aux environs de 21h30, donc des coups de feu ont été entendus dans le quartier Mabangou. Directement, il y a eu une alerte. Et là, les gens se sont dirigés voir ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que c'est avéré que c'est un capitaine de l'armée malienne, du nom de Hamata, qui a été tué par 4 individus qui étaient venus en moto. Donc, ils l'ont fait appel dehors, juste à la porte, ils l'ont abattu et ils ont pris les motos pour fuir. Bon, après ça, la sécurité a bouclé donc les lieux et l'ont emporté à la mort dans l'hôpital. Mais jusque-là, on ignore qui a fait ça, quelles sont les motivations. Bon, pour le moment, on attend les enquêtes.
Abdoulaye Traoré, directeur de Radio Bouctou, notre station partenaire à Tombouctou au Mali. Nigeria, une commission publique d'enquête a confirmé aujourd'hui que l'armée nigériane a tué 347 membres de la secte chiite IMN, le mouvement islamique du Nigeria, lors d'affrontements en décembre dernier à Zaria, fief de l'IMN, dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays. Un massacre dénoncé par certains politiciens locaux et Amnesty International qui a toujours été nié par l'armée nigériane. Selon le rapport de la commission, les militaires ont utilisé une force excessive lors de ces accrochages du 12 au 14 décembre 2015 à l'occasion de la visite du général de l'armée Tukur Youssouf Bourataï. Des accrochages qui ont coûté la vie à un soldat en plus des membres de la secte. L'armée accuse l'IMN d'avoir tenté d'assassiner le général Bourataï, ce que dément la secte chiite. Sur les 349 morts recensés, 347, à l'exception du soldat tué et d'un membre de l'IMN mort en détention, ont été enterrés dans une fosse commune. Souligne le rapport. La commission d'enquête encourage la justice nigériane à identifier et poursuivre les responsables du massacre. Nigeria toujours, Interpol, l'organisation de coopération policière internationale, a annoncé aujourd'hui l'arrestation à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, d'un homme soupçonné d'avoir escroqué en ligne des centaines de victimes dans le monde pour un montant de plus de 60 millions de dollars. Salwa Jafari nous en dit plus sur ce personnage.
Mike, c'est ainsi qu'il se fait appeler, un Nigérian âgé de 40 ans. L'homme a amassé une fortune totalisant plus de 60 millions de dollars en arnaquant des centaines de victimes à travers le monde. La victime la plus crédule lui a même versé plus de 15 millions de dollars. L'arrestation par Interpol du suspect a été menée avec le soutien de l'Agence nigériane de lutte contre la corruption ainsi que la Commission de lutte contre les délits économiques et financiers. Le réseau est tentaculaire. Il s'est infiltré dans des comptes de courrier électronique de petites et moyennes entreprises dans le monde, notamment en Australie, au Canada, en Inde, en Roumanie et même aux États-Unis. Mike n'est pas le seul à mener cette opération. Le réseau démantelé comprenait au moins une quarantaine de membres qui fournissaient des logiciels malveillants et commettaient des fraudes. Le suspect avait aussi des comptes pour blanchir l'argent en Chine, en Europe et aux États-Unis. Il risque des poursuites pour piratage informatique, association de malfaiteurs et obtention d'argent sous des prétextes fallacieux.
En Côte d'Ivoire, le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité a été reporté aujourd'hui au 10 octobre prochain à la demande de l'accusé et de ses avocats. Campagne présidentielle américaine maintenant, selon le tout dernier sondage réalisé après la convention démocrate, la candidate du parti Hillary Clinton a maintenant une avance de 7 points sur son rival républicain Donald Trump. Elle a 46% des intentions de vote contre 39% pour le milliardaire, ce qui constitue un bon post-convention de 4 points pour Mme Clinton, qui plafonnait auparavant à 42% et était pratiquement au coude à coude avec le milliardaire. Les experts attribuent ce rebond à une convention démocrate parfaitement orchestrée qui a réussi à surmonter la polémique avec les partisans du sénateur Bernie Sanders. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.